Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La religion babylonienne s'est étendue dans de nombreux pays à travers les siècles. Ces dieux sont tous dotés de noms différents à cause de la diversité des langues, mais ils ont tous la même origine. Leurs fêtes furent adoptées, le faux concept de la Trinité remonte à cette époque. Le livre de la Genèse nous raconte qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mot « esprit » est traduit de l'hébreu « ruach godesh » et dans le texte grec, il s'agit des mots « pneuma agion ». Pourquoi Dieu utilise-t-il l'hébreu « ruach » et le grec « pneuma » signifiant tous deux « air »,« souffle »,« vent » pour désigner le Saint-Esprit? Dans la Bible, Dieu utilise des symboles comme « air »,« vent »,« eau »,« huile » parce que ce sont des éléments compréhensibles pour l'homme. L'air est invisible, il est vivifiant, il est partout, tout comme l'Esprit de Dieu l'est. Le mot « esprit » se rapporte à la puissance de Dieu, à sa pensée, à cette force qui réside aussi bien dans le Père que dans le Fils. C'est cette puissance que Dieu répand sur ceux qui l'appellent et qui acceptent de se soumettre entièrement à sa volonté. C'est cette puissance qu'un jour Dieu répandra sur toute chair, comme le confirme le prophète Joël. Actuellement, la famille divine est composée de deux personnes possédant un esprit commun. Cette famille n'est pas une trinité et cet esprit n'est pas un être. Un emblème trinitaire de la divinité assyrienne suprême montre la tête d'un vieillard, le père. Ensuite, il y a une circonférence signifiant dans le langage chaldéen ce qui est ensemencé. C'est la descendance, le fils. Et enfin, on y voit la queue et les ailes d'une colombe, ce qui représente le Saint-Esprit que Sémiramis supplanta, en affirmant que cet esprit s'incarna en elle, et son enfant Dieu fut le résultat de cette incarnation. L'esprit s'étant incarné en elle, elle déclara qu'elle avait été dans le passé une colombe, symbole de l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, et elle affirma faire partie de cette trinité. Elle était donc devenue semblable aux dieux. La Trinité est parfois représentée sous la forme d'un corps humain à trois têtes, ou sous la forme d'un triangle, certains de ces triangles ayant un œil dans leur centre. Plus tard, le Père fut écarté comme être invisible, n'intervenant pas directement dans les affaires humaines. Il devait être adoré en silence seulement. De nos jours, dans certaines religions, l'importance est accordée à la mère, tandis que l'enfant, le Christ, est considéré comme dépendant de celle-ci. C'est ainsi qu'un être humain est placé au-dessus de Dieu. On se prosterne encore de nos jours devant un symbole païen, devant le soleil, le Seigneur Baal. Prenons par exemple la fête de la soi-disant nativité du Christ, Noël. Le 25 décembre est le jour à partir duquel le soleil commence à remonter dans le ciel, à fournir de plus en plus de chaleur. Les jours commencent à raccourcir à partir du 24 juin pour s'allonger à partir du 25 décembre. Le 24 juin est soi-disant le jour de la nativité de Jean-Baptiste. C'est ce soir-là qu'on allume les feux de la Saint-Jean. Comme nous l'avons vu, le feu qui donnait chaleur et lumière représentait le soleil sur terre. C'est ainsi qu'on en est venu à donner une étiquette chrétienne à certaines coutumes et fêtes religieuses païennes. Comment en est-on arrivé là? Le pape Grégoire Ier avait décidé de rencontrer les païens à mi-chemin de leurs croyances afin de les amener dans le sein de l'Église. La nouvelle encyclopédie catholique Théo relate, et je cite, « Pour évangéliser les habitants de la campagne, les missionnaires chrétiens, tout en les enseignant par la prédication, s'efforçaient de les détourner de leurs pratiques païennes. Pour cela, ils n'hésitaient pas à détruire les lieux de culte ou à abattre les statues de divinités et à élever des chapelles à leur place. Ou encore, ils s'employaient à donner une consistance chrétienne aux usages païens, par exemple aux fêtes. On constata que l'observance du 24 juin en l'honneur du dieu Tammuz était très populaire dans de nombreuses régions du monde. Tammuz était un dieu mésopotamien, il est mentionné dans le livre d'Ézéchiel. Les païens n'en démordaient pas. ils voulaient maintenir l'observance de cette fête. Par contre, l'Église ne pouvait pas tolérer le nom d'un dieu qui dévoilerait l'origine réelle de la fête. On donna donc à cette fête païenne un nom chrétien, comme ce fut le cas pour d'autres fêtes. C'est ainsi que l'on introduisit des fêtes païennes dans la liturgie chrétienne. Ayant déjà assigné la date du 25 décembre pour la naissance du Christ, alors que Jésus naquit en automne, il fallait trouver autre chose pour le 24 juin. Jean-Baptiste naquit 6 mois avant le Christ. On pouvait donc assigner au 24 juin la naissance de Jean-Baptiste. L'explication était trouvée et la célébration du dieu Tammuz fut christianisée. Les druides allumaient un grand feu le 24 juin en l'honneur de Baal ou Bel, et cette coutume s'observe encore aujourd'hui. Les usages relatifs à la Saint-Jean sont à rattacher soit aux fêtes gauloises effectuées au solstice d'été en l'honneur de Belen, dieu du soleil, soit au culte du soleil observé chez les Grecs et les Romains. Ces bons par-dessus les brasiers sont très souvent interprétés comme un rite de fertilité. Les feux de la nuit de la Saint-Jean commémorent le soleil qui est au point le plus haut avant que le jour ne commence à décroître. L'Église a longuement combattu cette coutume. N'y parvenant pas, elle a tenté de lui donner un vernis chrétien grâce à la présence du clergé. Vous avez peut-être vu à la télévision l'observance de cette fête dans les pays scandinaves, en Angleterre, en Irlande, et aussi dans nos pays, fête au cours de laquelle les gens sautent au-dessus des braises incandescentes après que ce feu de la Saint-Jean ait brûlé quelques heures et commence à s'éteindre. Pourquoi sautent-ils? Ils perpétuent une coutume païenne. La Bible rapporte que le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom pour faire passer à Moloch leur fils et leur fille, ce que je ne leur avais point ordonné, et ils ne m'étaient point venus à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Judas. L'Éternel déclare à l'Israël moderne, « En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. » En 1921, on a découvert à Carthage, en Tunisie, une nécropole. On y a trouvé des milliers de petites stèles funéraires, sous lesquelles se trouvaient des urnes contenant les cendres de très petits enfants. Sur ces stèles, on trouve des inscriptions rédigées comme suit. Ceci a été dédié au seigneur Baal Amon. Il y a aussi des gravures représentant un prêtre tenant un enfant dans ses bras. Ces enfants étaient les premiers-nés offerts en sacrifice pour apaiser Baal Amon en temps de crise. Ceux qui bondissent au-dessus des feux de la Saint-Jean perpétuent les sacrifices de ces enfants que l'on faisait passer par le feu pour Tammuz ou le seigneur Baal, le dieu soleil. Après la mort de Jésus, près de 300 ans s'écoulèrent avant que Rome commence à célébrer sa naissance. C'est en l'an 354, sous les auspices de Liber, évêque de Rome et pape, que l'on commença à observer, sous une étiquette chrétienne, une fête qui tombait le 25 décembre. Les gens ne fêtaient pas leur anniversaire de naissance, mais la date d'anniversaire de leur Dieu. Deux êtres célestes faisaient l'objet d'une vénération particulière. Jupiter, dont l'anniversaire était célébré en septembre, et Saturne, dont l'anniversaire était célébré en décembre. Au cours des 3 premiers siècles de l'Empire romain, qui débuta avant Jésus-Christ, des philosophes et des mystiques venant de l'Est prêchèrent la nature divine du soleil, qui était déjà admise à Babylone et en Égypte depuis longtemps. L'adoration du soleil était aussi très répandue en Syrie et en Perse. Cette adoration se répandit dans l'Empire romain, non seulement par l'intermédiaire de visiteurs et d'immigrants venant de l'Est, mais également par des soldats romains qui, ayant séjourné dans ces régions, s'étaient accoutumés à cette adoration qu'ils désiraient poursuivre de retour dans leur pays. Tacite, l'historien romain du 1er siècle, rapporte qu'à la bataille de Betriacum ou Bedria en l'an 69, les soldats de l'empereur Vespasien saluèrent le soleil levant avec de grands cris. Il écrit « Un cri s'éleva dans l'armée entière et les soldats de la 3e Légion, conformément à la coutume syrienne, acclamèrent le soleil levant. » Procope, en grec Procopios, historien byzantin et principal historien de Justinien, relate dans son livre « Des guerres » qu'il était habituel pour les Perses de se prosterner chaque jour devant le soleil levant et que, dans les temples, les adorateurs adressaient leurs prières à la source de lumière 3 fois par jour, à l'aube, au milieu du jour et au coucher, chaque fois en faisant face au soleil. Les Romains furent enthousiasmés par cette nouvelle divinité solaire et avec le temps, les empereurs eux-mêmes adoptèrent cette nouvelle religion venue de l'Orient. Commode et Sévère Alexandre furent 2 empereurs qui portèrent un très vif intérêt à la religion du soleil. Lorsque Sextus Varius devint empereur, il décida d'écarter Jupiter de son trône céleste et de le remplacer par une statue du dieu soleil syrien, suite à sa visite en Syrie, où il restaura un temple au dieu soleil à Émèse. Avant cela, cet empereur avait changé son nom en Elagabal, afin que le nom du dieu soleil, Baal, y figure aussi. Le grand Larousse encyclopédique écrit « Émèse, ville de Syrie sur l'Oronte. Émèse fut le berceau des empereurs romains de la famille syrienne. Elle était célèbre par son temple du soleil, dont l'empereur Elagabal était le grand prêtre. Le culte du dieu d'Émèse se développa à travers tout l'Empire romain au 3e siècle. » Sur Sextus Varius, le grand Larousse encyclopédique déclare « Sextus Varius Savitus Bassianus, salué par les soldats sous le nom de Marcus Aurelius Antoninus, dit Elagabal, empereur romain, attaché au culte du soleil à Émèse, il fut tout jeune grand prêtre de ce dieu, adoré sous la forme d'une pierre noire et sous le nom d'El Gebal. » Il proclama le Baal d'Émès, dieu suprême de l'Empire, et déposa au Palatin la pierre noire d'Émès. Le Palatin est une des 7 collines de la Rome antique. Ce jeune empereur déposa temporairement Jupiter de sa suprématie sur les dieux romains et éleva à sa place le dieu Baal. Beaucoup de Romains restèrent fidèles à leurs anciennes croyances. À la mort de Elagabal, les anciens dieux romains furent restaurés, mais 50 ans plus tard, Aurélien accéda au trône de César. Né dans les parages de la mer Noire, où sa mère était prêtresse du soleil, Aurélien passa une grande partie de son temps dans les territoires de l'Est de l'Empire, afin d'y solidifier les conquêtes de ses prédécesseurs. En Syrie, il fut conquis par la religion des adorateurs du soleil. Au cours d'une campagne militaire, il sollicita l'aide du dieu soleil, et après avoir obtenu la victoire, il offrit des offrandes de remerciement au temple d'Émèse qui avait été reconstruit 50 ans plus tôt par Elagabal. De retour à Rome, Aurélien exalta l'invincible soleil et l'institua au-dessus de tous les dieux, y compris Jupiter. La Rome païenne était prête à se laisser conquérir par la divinité solaire, le dieu Baal ou le seigneur Baal. Le grand Larousse encyclopédique écrit « Aurélien se plaça sous le patronage du soleil, Sol Invictus, qu'il destinait à dominer et à concilier tous les cultes païens. L'empereur, dans la pensée d'Aurélien, occupe sur la terre le même rang éminent que le soleil aux cieux et participe à sa nature. Aurélien est le premier empereur qui se soit fait appeler Deus et Dominus, Dieu et Seigneur de son vivant. » La semaine prochaine, nous verrons comment ces événements ont influencé un monde qui se dit chrétien, qui rejette les fêtes de l'Éternel, mais qui observe les fêtes païennes.